Chapitre 33. Un souffle chaud caressa le cou de Franks. L'un des chiens lui immobilisait toujours le bras. Un deuxième avait planté ses crocs dans le cuir de ses bottes. Il frappa de son poing celui qui tentait de le saisir à la gorge. Le coup, désespéré, maladroit, eut pour seul effet d'exciter la colère de l'animal qui poussa un grondement furieux et glissa le museau sous son bras replié. Il pensa à Souria, seul en bas, et s'efforça, avec l'énergie du désespoir, de récupérer son pistolet. Il roula sur la poutre maîtresse et tomba un mètre plus bas sur les chevrons du plafond. Une douleur vive monta de son avant-bras comprimé par les mâchoires puissantes. Sa main libre chercha à tâtons le pistolet coincé entre deux traverses. Un choc soudain lui coupa le souffle. Le chien qui venait du haut lui avait bondi sur la poitrine. Il sentit à nouveau le souffle chaud de l'animal sur son cou. Allongé sur le dos, écartelé par les deux autres molosses qui n'avaient pas desserré les mâchoires, il lui fut impossible de se protéger, et le museau s'approcha sans difficulté de son cou. Poussant un hurlement, il se débattit une dernière fois. Mais la pression des chiens ne se relâcha pas. Des griffes lui labourèrent frénétiquement le torse. Une truffe humide se glissa sous son oreille. Il revit les visages de Zoé, de Théo, d'Alice, avec une netteté bouleversante. Il était passé à côté d'eux. Il n'aurait pas l'occasion de rattraper le temps perdu. Que devenait-il là-bas, au feu de Dieu? Les crocs cherchaient sa jugulaire. Il eut un dernier soubresaut, puis il ferma les yeux et lâcha prise. Son corps lui semblait étranger, lointain, comme déjà passé dans un autre univers. Le songe de sa vie s'estompait. Plus rien n'avait vraiment d'importance. Un soulagement indicible, enchanteur, recouvrait la peur et les regrets. Il avait fini de lutter. Il aspirait au repos. Il resta suspendu entre deux mondes, un temps qu'il aurait été incapable d'évaluer. Une sensation soudaine de légèreté l'entraîna à rouvrir les yeux. Il constata, à la lueur de la lampe, que les chiens avaient disparu. Il crut qu'il émergeait d'un rêve avant de se redresser et d'examiner son bras. Les crocs avaient déchiré les vêtements et la chair. Des filets de sang s'écoulaient de ses blessures. Il palpa son cou, ne décela aucune égratignure, observa sa botte, percée en plusieurs endroits, s'accorda un moment pour reprendre ses esprits, avant de récupérer le pistolet et la lampe. Un aboiement retentit, en provenance du dessous. Souria. Si les chiens l'avaient délaissé, c'est qu'ils avaient jeté leur dévolu sur une autre proie. Il s'avança sur le bord de la brèche principale du plafond et promena le rayon de la lampe dans la sacristie. Le spectacle qu'il découvrit en contrebas le stupéfia. Les quatre chiens étaient sagement allongés devant la fillette, assise sur son matelas de chasuble. Contrairement à ce qu'il craignait, ils ne l'agressèrent pas lorsqu'il la rejoignit. Elle l'accueillit d'un sourire, il la serra un long moment dans ses bras. Il soigna les blessures à son avant-bras, ravauda tant bien que mal ses vêtements et prépara le départ, surveillant du coin de l'œil les chiens toujours allongés. Leur maigreur, visible malgré l'épaisseur de leurs poils, le frappa. Il remarqua également les nombreuses cicatrices boursouflées et rosâtres sur leurs flancs palpitants. C'étaient des corneaux, pas très massifs, au pelage gris tacheté de blanc et de noir, aux pattes et aux griffes puissantes. Il se demanda où était passé le reste de la meute. Il ranima le feu et posa au-dessus des braises quatre galettes de blé et des fruits secs pour les décongeler. Souria découpa une partie de ces galettes en petits morceaux qu'elle donna aux chiens. Ils les engloutirent en deux coups de croc. « On a encore beaucoup de chemin, » dit Franks à la fillette. « Il faut garder tes forces pour toi. » Elle acquiesça d'un sourire et continua de partager ses rations avec les chiens. Ils attendirent pour partir que le blizzard s'apaise. La tourmente avait laissé derrière elle un environnement entièrement gris, un silence épais et une neige molle dans laquelle on s'enfonçait jusqu'aux genoux. Les chiens les suivaient à distance, disparaissant par instants, réapparaissant soudain au détour d'une colline ou des ruines d'un village. La visibilité était nettement meilleure malgré la densité des ténèbres. Franks avait repéré la Nationale 20 grâce à un panneau ployé sous un arbre pétrifié qui indiquait la direction de Saint-Sulpice-les-Feuilles et de Limoges. Il se trouvait donc quelque part dans la Creuse. Souria et lui avaient accompli plus des trois quarts du trajet. Il leur restait entre 100 et 150 kilomètres jusqu'au feu de Dieu. Une distance à la fois courte et interminable. La température avait encore baissé de plusieurs degrés. Ils entraient probablement dans la véritable période glaciaire, qui durerait, selon les estimations de Franks, entre 5 et 10 ans. Ils portaient Souria dans les passages les plus difficiles, là où elle peinait à s'arracher de l'épaisse couche de la poudreuse. Il traversait un paysage vallonné. L'air coupant et la consistance du sol rendaient les efforts pénibles, exténuants. Il leur faudrait bientôt se mettre en quête d'un refuge. La question des ressources devenait cruciale. Sans feu, ils ne pourraient pas décongeler les aliments. Mais où dénicher du bois ou d'autres combustibles dans un environnement aussi hostile? Ils atteignirent une petite ville dont pas une construction n'était restée debout. Ils n'y découvrirent aucun abri, ni aucun tas de bois, ni aucun magasin où ils auraient pu reconstituer leurs réserves alimentaires. Les ruines étaient ici prises dans une glace épaisse qui n'offrait pas de brèche. On devinait des portes, des fenêtres, des intérieurs et des corps figés dans la matière translucide. Une vie saisie, pétrifiée, comme dans un musée de cire. Ils se remirent en route malgré leur fatigue et affrontèrent le vent violent qui balayait la partie plane entre les alignements de collines. Franks jucha Souria, épuisé sur ses épaules, jusqu'à ce que la fatigue le contraigne à s'arrêter. Il savait que s'il s'asseyait, il risquait de ne plus se relever. Mais ses jambes peinaient à le porter, et il se laissa choir dans la neige. La fillette vint se blottir contre lui. Le froid les emporterait rapidement s'il ne se relevait pas. Les chiens déboulèrent tout à coup des hauteurs, coururent vers Souria et Franks, se roulèrent en boule autour d'eux, formant un rempart de fourrure qui les réchauffa peu à peu. Ils restèrent pelotonnés dans la chaleur des animaux jusqu'à ce qu'ils aient recouvré une partie de leur force, puis ils se remirent en route. Comme la neige durcissait, ils cessaient de s'enfoncer et marchaient d'un pas à peu près normal, partant parfois dans une incontrôlable glissade qui s'achevait contre une congère ou un tronc mort. Les chiens, eux, progressaient sur les hauteurs qui encadraient le ruban relativement plat de l'ancienne Nationale 20, jonché de véhicules caparaçonnés de glace. Franks aurait dû commencer à s'habituer au phénomène étrange qui jalonnait le chemin de Souria, mais la façon dont elle avait apprivoisé des animaux rendus féroces par la faim ne cessait de l'étonner, tout comme le comportement des rats dans la champignonnière de Buc. Il aurait vraiment aimé connaître son histoire. Sa famille, sa mère, avait-elle pris conscience des extraordinaires facultés de la fillette? Un glissement de terrain coupait parfois la route et les contraignait à un détour. Il devait ensuite récupérer la Nationale 20, donc repérer d'éventuels panneaux ou d'autres jalons. Ils traversèrent un village appelé Fromental, où dans une rue protégée des intempéries par une voûte de murs effondrés, un vieux panonceau inséré dans un mur indiquait « Nationale 20, 6 km, Limoges, 38 km ». La neige recommençait à tomber, drue, cinglante, parsemée de cristaux de glace. Ils se réfugièrent en compagnie des chiens dans un garage resté debout à côté d'un pavillon isolé complètement rasé dont le toit plat n'avait pas cédé sous le poids de la glace, et en profitèrent pour se reposer et se restaurer. Franks rassembla de quoi faire du feu. Des bûches noueuses qu'il fendit avec une hache accrochée au mur, de vieux journaux où s'étalaient des unes sur la grande crise financière de 2009 et les bouleversements politiques en Chine et en Russie. Il décongela les dernières galettes, deux barres de céréales, une tablette de chocolat, fit fondre un morceau de pain de glace, récupéra l'eau dans un récipient en plastique, remit sa part à Souria, et cette fois n'attendit pas qu'elle s'en charge pour donner à manger et à boire aux chiens. Les sucres lents, s'ils ne suffiraient pas à les rassasier, leur permettraient de tenir le coup jusqu'à ce qu'ils dénichent une nourriture plus consistante ou qu'ils débusquent une proie vivante. Il s'habitua à leur présence. Il avait presque oublié qu'ils avaient failli le déchiqueter quelques heures plus tôt. Calme, discret, ils veillaient comme des anges gardiens sur les deux humains perdus dans l'immensité grise. Ils s'assoupirent près du feu, de même que Souria, qui s'allongea sur le tissu que Franks étendit sous elle. Il la couvrit de son propre manteau. La réserve de bûches leur permettrait de tenir 2 ou 3 heures. Il graissa le fusil et le pistolet, reboucha les trous dans ses bottes, s'assura du bon état des cartouches et des balles, puis il entretint le feu. Bercé par le crépitement des flammes et la respiration sifflante des chiens, il s'égara dans les labyrinthes confus de ses pensées. Les images de son enfance se mêlaient aux souvenirs plus récents, au ciel soudain noir au-dessus de Paris, au corps brûlant de Charline Siboni, au trogne de Josie et Milou dans leur maison de l'horreur, au rire espiègle de Zoé à l'âge de 7 ans, à la dernière engueulade au téléphone avec Alice, au jour finalement heureux de la construction du feu de Dieu. Des scènes ressurgirent de sa mémoire profonde qu'il croyait à jamais oublier, l'atmosphère tendue dans la maison familiale. Et il comprenait que ses parents, malgré tous leurs efforts pour démontrer le contraire, ne s'étaient jamais entendus. Ses premières amitiés à l'école maternelle, ses premières amours, ses premières déceptions. De tous ses reflets, de toutes ses sensations, il ressortait qu'il s'était fourvoyé dans les illusions du mental, qu'il n'avait jamais eu de prise sur la matière. Quand la réserve de bûches fut entièrement dévorée par les flammes, il alla vérifier l'état du ciel. Il ne neigeait plus. Une bise glaciale soulevait des écumes blanchâtres qui déferlaient inlassablement en vagues. Il réveilla Souria d'une pression sur l'épaule. Les chiens sortirent du garage avant que Franks et la fillette n'aient fini de se rhabiller. Il vérifia soigneusement que leurs accoutrements ne présentaient aucune faille, bonnet sur le crâne et les oreilles, lunettes sur les yeux, pans de tissu superposés sur le bas du visage, écharpe autour du cou, manteau ou doudoune par-dessus plusieurs couches de pull, gants polaires, double pantalon, trois paires de chaussettes enfilées les unes sur les autres, bottes après-ski pour elle, bottes fourrées pour lui. Il s'équipa du sac à dos, du fusil, et ils rejoignirent les chiens dehors. Ceux-ci, le poil hérissé, le dos rond, grondaient sourdement, comme s'ils avaient flairé un danger. Une vision traversa l'esprit de Franks, trop furtive pour qu'il puisse l'identifier. Une masse blanche, comme détachée de la neige et roulant sur une pente. Ils atteignirent la ville de Bessines-sur-Garthe. Une partie du nom avait disparu, avec le bout de panneau arraché et coincé dans la glace sous l'avancée d'un toit défoncé. Les chiens ne cessaient de gémir et de gronder. Franks scrutait l'horizon, mais ne détectait rien d'autre que les voiles neigeux tendus par la bise sur les parties planes et se fracassant au pied des reliefs. L'exploration rapide de la petite cité ne donna aucun résultat. Ils étaient en tout cas de nouveau sur la Nationale 20. Il sembla à Franks percevoir des bruits réguliers, comme des coups donnés sur la neige. Les chiens bondissaient sur les pentes des collines proches. Il posa la main sur l'épaule de Souria et la maintint contre lui. La fillette avait marché sans interruption depuis le garage, et il se reprocha de ne pas avoir pris soin d'elle. Comme elle ne se plaignait pas, il fallait sans cesse observer son allure, ses yeux, pour discerner les signes avant-coureurs de fatigue. Il eut de nouveau la vision de la masse blanche, lancée à toute allure au milieu d'un moutonnement hérissé d'arbres courbés par les vents et le poids de la glace. Il crut percevoir une deuxième forme claire dans le lointain. Les images s'estompèrent, et il fixa avec inquiétude les chiens qui, regroupés sur un sommet proche, aboyaient sans interruption. La sensation de danger se fit oppressante. Le paysage où ils évoluaient ne proposait aucun abri. Il s'arrêta, plaça Souria derrière lui, se défit de son sac à dos, glissa deux cartouches dans le fusil, l'épaula et se tint prêt. Les masses blanches apparurent à l'horizon. Franks eut besoin de quelques minutes pour se rendre compte qu'il s'agissait d'ours blancs, lancés au grand galop dans leur direction, soulevant des gerbes de neige à chaque foulée, échappés d'un zoo, ou bien, hypothèse moins probable, descendus du Grand Nord en profitant de la glaciation soudaine qui agrandissait leur territoire. Franks espéra qu'il s'arrêterait au dernier moment et se coucherait aux pieds de Souria, comme les chiens et les rats. Il dégageait une impression de puissance phénoménale. Flairant leur proie des kilomètres à la ronde, les grands prédateurs régnaient en maître absolu sur les étendues glacées. Franks ne disposait que de deux cartouches. Il était condamné à ne manquer aucun de ses tirs. Il les garda dans sa ligne de mire. Ils progressaient côte à côte, à la même vitesse. Les chiens sautaient sur place et hurlaient à la mort. Leur instinct leur dictait de ne pas rechercher l'affrontement avec des adversaires capables de les décapiter d'un simple coup de patte. Franks jeta un bref coup d'œil à Souria et ne décela dans ses yeux aucun signe de frayeur.